can say, you're fired.
C'est le calme avant la tempête. Contre la Chine, Donald Trump n'a pour l'instant que fait rougeoyer les braises. Il est prêt à activer le feu. Prêt, dit-il, a-t-il encore répété hier, à taxer la totalité des importations chinoises, plus de 400 milliards d'euros de produits. La Chine, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis et c'est l'autre grande puissance économique de la planète. Alors avec Trump, le FMI s'alarme, les investisseurs retiennent leur souffle, les marchés émergents s'angoissent et les entreprises américaines commencent-elles aussi à s'inquiéter? Vous avez peut-être vu ce fabricant américain de clous, le plus grand fabricant américain de clous, qui risque de mettre la clé sous la porte, son acier est importé. Mais aux États-Unis, pour le moment, l'économie tourne rond. La croissance est à 3%, le chômage à 3,9%, c'est comme dans le film. Jusque-là, tout va bien. L'escalade ne fait que commencer. On ne sait pas à quel moment Trump sera allé trop loin. Trop loin pour son économie, pour celle du reste de la planète. Ça n'est pas encore arrivé. Peut-être, peut-être, grâce à des résistants qui volent des lettres dans des parapheurs.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue dans votre magazine d'économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. On n'arrête pas l'écho et réalisé par Coy Nguyen. Maud Benakcha est notre attaché de production. Et ce matin, c'est Mathias Alléon qui nous accompagne à la technique. Ce matin, dans le Mag'Écho, nous actons le changement historique. Le prélèvement à la source, ça y est, c'est parti. Les débatteurs sont là. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Lechypre de BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Vous êtes d'accord avec moi? Historique?
Oui, c'est historique. En Christian. Même temps, c'est pas la première fois en France qu'on met en place un prélèvement à la source. Ah. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
Bon, quel suspense. Emmanuel, historique? On peut dire historique.
Oui, on se calme un peu.
Ah bon, d'accord. Je vous donne une idée de la suite. Nous retrouvons dans une poignée de secondes. Le Made in France a-t-il de l'avenir? À quelles conditions peut-on produire en France? Acheter français, est-ce que ça marche? Pourquoi n'arrivons-nous pas à exporter plus? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Et pour prolonger la réflexion, je reçois ce matin un jeune entrepreneur, par ailleurs un ancien ministre de l'économie et du redressement productif. Arnaud Montebourg est l'invité du Mag'Écho. Il sera avec nous dans ce studio vers 9h45. Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot, ce matin c'est Gérard qui est syndicaliste et qui vous a écrit.
Oui, il s'interroge sur la transparence des salaires, tout dire, afficher les écarts de rémunération. Est-ce efficace?
Est-ce efficace? On se retrouve juste avant 10h, Sandrine Foulon. Tout de suite, c'est le prélèvement à la source. Encore 4 questions essentielles.
4 septembre 2018.
Je vous confirme qu'au 1er janvier de l'année 2019,
Édouard Philippe,
l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source.
Premier ministre.
Comme nous avons travaillé depuis plusieurs mois pour faire en sorte que cela soit possible.
Nous avons tout le temps été opposés au fait que ce soit l'entreprise,
François Asselin,
qui fasse, en lieu et place de l'administration fiscale, le travail de collecter l'impôt.
Président de la CPM.
Ou alors on nous a souvent opposé le fait que l'entreprise déjà collectait la TVA. Oui, mais attention, là on touche au denier personnel de nos salariés.
À dire l'impôt contemporain.
Geoffroy Roux de Bézieux.
C'est-à-dire l'impôt qu'on paye la même année de ses revenus.
Président du MEDEF.
C'est une bonne chose, mais ne passez pas par l'entreprise.
Toutes les entreprises, chez nos voisins, y arrivent.
Benjamin Griveaux.
Nos entreprises françaises sont équipées, on est là pour les accompagner.
Porte-parole du gouvernement.
Bercy a mis en place des services d'accompagnement pour les entreprises, pour les employeurs. Nous allons accompagner chacune et chacun dans ce changement.
On va continuer d'expliquer au gouvernement.
Alain Grisé.
Que pour nous, c'est quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction.
Président de l'Union des entreprises de proximité.
C'est un coût pour nos entreprises. On l'a évalué à 125 euros par salarié et par an. C'est un risque de dégradation de la relation entre le chef d'entreprise et ses salariés. Il y a un risque également de sanctions en cas d'erreur pour nos collègues.
Ça fait des mois que je disais.
Valérie Pécresse.
On aurait pu économiser beaucoup d'argent et aussi beaucoup de complexité pour les entreprises.
Présidente LR de la région Île-de-France.
En faisant la mensualisation obligatoire. Alors ça avait qu'un décalage d'un an, mais c'était beaucoup plus simple.
Il semble qu'aujourd'hui Emmanuel Macron redoute.
Benoît Hamon.
L'effet.
Fondateur du mouvement Génération.
Qui serait celui d'une prise de conscience par les Français au regard des bons considérables que font les revenus du capital, etc. Que leur revenu du travail à eux, net d'impôts, est très faible et qu'il les pousse à exiger des augmentations de salaire, en tout cas à réclamer plus de justice.
Et moi je leur rappelle simplement que
Olivier Faure,
pour tous ceux qui veulent un impôt plus juste.
Premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et qui veulent à terme la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. La seule façon d'y parvenir, c'est justement le prélèvement à la source.
Donc une division de plus de la gauche.
C'est pas une réforme fiscale.
Éric Woerth.
Une réforme de la collecte de la fiscalité.
Président LR de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale.
C'est pas une réforme qui va augmenter la croissance ni le pouvoir d'achat des Français. On doit consacrer toute l'énergie du pays à réellement réformer notre pays et pas à faire des réformes qui ne servent à rien.
Et finalement, nous y allons. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'a annoncé cette semaine. L'impôt sur le revenu sera, oui, prélevé à la source à partir du 1er janvier 2019. À 4 mois du grand saut, nous avons listé, on n'arrête pas l'écho, 4 questions essentielles. La première, elle est pour Christian. Christian, est-ce que les Français vont y gagner quelque chose ?
Écoutez, pas facile à dire. Est-ce que c'est un exercice de simplification déjà ? Est-ce qu'on va y gagner en simplification ? Bah, pas vraiment. On nous dit... on va être prélevé en fonction de nos revenus du moment. D'accord ? Mais rappelez-vous que on a fait notre déclaration d'impôt au printemps dernier. Notre déclaration d'impôt au printemps dernier qui portait sur les revenus de 2017. Et c'est sur ces revenus de 2017 que le taux de prélèvement va être calculé.
Mais on vous a dit que ça, c'était la période de transition.
Ah bah oui, mais on aurait pu. Vous savez, pardon d'être un peu technique, mais il y a ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, les entreprises envoient à la Sécu, au fisc, à toutes les administrations, nos informations au moins le mois. L'information sur nos revenus au moins le mois, le fisc l'a. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement pris cette information pour nous appliquer un taux sur nos revenus de 2019, pas sur nos revenus de 2017? Bon, c'est vrai que il y a la période de transition, mais ça simplifie pas parce que il va falloir quand même faire la déclaration.
Ah oui, ça,
tout ce qui est les salaires, les traitements, les pensions, les allocations chômage, tout ça va être pris en compte directement. Mais si vous avez la chance d'avoir des placements financiers, si vous vendez un petit appartement de votre maman ou de votre papa et que vous faites une plus-value immobilière, si vous avez des crédits d'impôt, tout ça va falloir aller le dire au fisc et remplir encore une déclaration. Et puis surtout, si vous vous mariez, si vous avez un enfant qui naît, un enfant qui part, va falloir tout de suite l'appeler le fisc pour qu'il corrige votre information. Quelques mois plus tard, 2 mois à 3 mois plus tard. En gros, on n'en a pas fini avec la paperasse, quoi.
Dans ça. Mais d'ailleurs, tous ceux qui font du prélèvement à la source, en Allemagne, aux États-Unis, eux, ils ont carrément des experts comptables qui les aident, les ménages.
Quelquefois en Allemagne, oui. Et en même
très
temps,
souvent en Allemagne.
Très souvent en Allemagne, mais c'est plus facile pour les entreprises.
Emmanuel Le Chypre.
Et n'oublions pas que dans tous ces pays où il y a le prélèvement à la source, vous n'êtes pas dispensé d'une déclaration en fin d'année pour rectifier le tir éventuellement sur quelques revenus. Donc le mythe de la simultanéité, franchement, il n'est pas tout à fait réel. Non, sur votre question qui gagne, qui perd, il y a beaucoup de Français qui vont perdre. D'ailleurs, la majorité des Français va perdre en termes de trésorerie, contrairement à ce que nous dit le Premier ministre. Le Premier ministre, il nous a dit quoi ? Il a dit, mais regardez, avant, si vous étiez mensualisé, prélevé en 10 fois jusqu'à fin octobre, ou si vous étiez en 3 fois, 3 grosses fois, c'était une dernière grosse fois jusqu'en septembre. Et là, avec le prélèvement à la source, ce sera sur 12 mois, donc des sommes plus faibles. Et en plus, vous serez prélevé non pas le 15 du mois, mais à la fin du mois. Donc vous gagnez en trésorerie. Mais ce qu'il a oublié de préciser, le Premier ministre, c'est que vous bénéficiez avant, vous savez, d'un an de décalage entre le paiement de votre impôt et vos revenus. Ce décalage, il n'existe plus. Or, ce décalage, il correspondait à une avance de trésorerie. Pourquoi ? Parce que, retenez bien ce chiffre, chaque année, les 2/3 des Français voient leurs revenus augmenter. Et 1/3 seulement les voient baisser. Et donc, quand vos revenus augmentent, avant, on ne payait sur ces revenus qui augmentent que l'année suivante. Oui, mais c'est une dynamique de 3% par an à peu près, hein, si vous regardez ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce cadeau de trésorerie que nous faisait l'État sur les revenus qui augmentent, il ne le fait plus. Il ne le fait plus pour les 2/3 des Français. Donc oui, effectivement, pour 1/3 des Français, c'est favorable. C'est pour ça que c'est pas une mesure qui est de droite, qui est anti-pouvoir d'achat. Alors, le cas qu'on nous cite souvent, c'est les retraités, parce que effectivement, eux vont bénéficier. Il y a une autre grande catégorie qui va profiter.
Attendez, non, vous allez trop vite là. Le cas qu'on nous cite souvent, c'est les retraités.
Oui, le cas que cite Édouard Philippe pour dire regardez, la simultanéité, c'est bien parce que quand vous partez à la retraite, en gros, vous avez une chute de vos revenus et que dans l'ancien système, vous étiez obligé de payer l'année où vous avez la chute de vos revenus quand même des impôts correspondants à vos revenus d'activité.
Bon, ça c'est exact.
Donc ça c'est positif. Il y a une autre catégorie dont on oublie souvent qu'elle profite de cette réforme, ce sont les femmes, parce que dans ce système d'impôts à la source, vous pouvez introduire une individualisation du taux. Et il faut savoir que le système avant, qui était un système par couple, par famille, favorisait énormément les couples dans lesquels vous aviez beaucoup d'écarts de revenus entre les deux membres du couple. Donc c'était souvent l'homme qui gagnait plus, souvent la femme qui gagnait moins. Et donc ça encourageait la femme à ne pas travailler ou à travailler très peu.
Ah, vous êtes sensible à l'argument féministe du gouvernement.
Ah bah, il est quand même réel. Attendez, avant...
Christian aussi, qui hoche de la tête.
Prenez juste un couple. Avant, il y en avait un qui... La femme gagnait deux fois le SMIC, l'homme gagnait 10 fois le SMIC, il payait un peu moins de 40 000 euros d'impôts. Si la femme arrête de travailler, c'est 10 000 euros d'impôts en moins. Donc mettez les économies faites en plus par sur la garde d'enfants si vous ne travaillez pas. Il n'y avait pas d'incitation à travailler. Si vous avez un taux individualisé, comme on est dans un système progressif, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez plus d'impôts sur les 1000 premiers euros, sur les 1000 derniers euros que vous touchez que sur les 1000 premiers. Du coup, c'est plus celui qui travaille le plus qui a intérêt à travailler davantage, c'est celui qui travaille le moins. Et donc, vous réintroduisez de l'égalité sur le marché du travail. En revanche, grand perdant, pour terminer, jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui avant avaient une année avant de payer des impôts, là, ils en paieront tout de suite.
Christian,
juste préciser que c'est un effet de trésorerie. Tout ce que Emmanuel vient de décrire sont des effets de trésorerie.
Il n'y aura
pas plus d'impôts ou moins d'impôts. On change le mode de prélèvement de l'impôt. C'est pas une réforme fiscale qui va changer le montant de l'impôt.
C'est pour ça quand vous dites que est-ce que c'est une réforme historique, les réformes de tuyauterie, parce que c'est une réforme de tuyauterie, ne sont jamais véritablement des grandes réformes historiques.
Alors, moi je dis historique
parce que ça n'est pas une grande réforme fiscale.
Ça, on en parlera aussi, j'espère. Mais historique parce que on a essayé dans les années 60, on a essayé dans les années 70. On a essayé dans les années 90, Rocard y pensait. En 2006, Thierry Breton, il nous dit qu'il avait...
Oui, mais il fallait faire moderne. C'était l'idée. Enfin, je sais que dans le gouvernement Sarkozy,
parce qu'on a beaucoup
l'idée, c'est qu'on voulait faire moderne. Chez François Hollande, c'était différent.
La première proposition, c'était la CGT 1947. Hein. Faut quand même...
Et dans la raison pour lesquelles on a toujours abandonné, c'est parce que les entreprises, elles mouraient de peur qu'il y ait des revendications salariales.
Vous leur prêtez un peu trop de pouvoir, à mon avis. Dans le renoncement, dans les renoncements successifs.
Dans le poids des lobbies.
Geoffroy Roux de Bézieux, nouveau patron du BNF, vous a dit le prélèvement à la source, c'est vraiment super. Je cite, mais pas en faisant jouer à l'entreprise le rôle de percepteur. Même son cloche à la CPME, qui est le syndicat pour les PME. Juste pour la petite histoire, pour répondre à mon teasing du début de l'émission.
Oui, historique ou pas?
Entre 1939 et 1948, il a existé, en France, un prélèvement à la source de 15% sur les salaires faits par les entreprises. Bon, après, pour des raisons historiques, c'est parti, mais on l'a eu pendant une dizaine d'années en œuvre en France. Est-ce que les coûts de gestion sont importants pour les entreprises? Parce que c'est ça qu'elles nous disent. On va avoir des coûts de gestion absolument terribles. Les coûts de gestion, ça s'étale entre 4 euros par an et par salarié pour les systèmes les plus simples, style Royaume-Uni, Danemark, jusqu'à 100 euros par an pour les plus complexes comme les Pays-Bas et l'Australie. Où est-ce que ça va se situer en France? J'ai passé quelques coups de fil, moi, alors évidemment, plutôt vers des grandes entreprises. On m'a dit, les retours que j'ai, c'est à peu près 2 euros par an et par salarié. Donc la France, on va vraiment être dans le bas de la fourchette. Bercy sait faire, quoi. Sait faire avec pas beaucoup d'argent. En fait, le coût principal de la mise en œuvre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la fameuse déclaration sociale nominative. Il a fallu changer les logiciels, mettre tout ça à jour. Et une fois que ça s'est fait, rajouter une ligne dans le logiciel pour dire maintenant on va faire du prélèvement à la source, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc pour les entreprises, bon, ça va pas coûter trop de choses. Et puis, les entreprises, elles ont déjà l'habitude de prélever des impôts. On a une ligne CSG, on a une ligne qui va pour la Sécu, une ligne qui va pour le chômage. Et là, l'OCDE nous a dit, en gros, combien est-ce que les entreprises prélèvent d'impôts dans les ménages de chaque pays? En moyenne, 45,3% d'impôts dans l'ensemble des pays de l'OCDE, avec des taux qui sont très élevés, 63-64% aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, et autour de 25% en Suisse ou en France. Donc la France, c'est un pays dans lequel les entreprises prélèvent relativement peu d'impôts par rapport aux autres pays. On peut bien leur demander d'en faire un tout petit peu plus. Alors bien sûr, au-delà des questions de coûts, les chefs d'entreprise vont se retrouver avec des salariés qui sont payés pour faire le même salaire, pour faire le même travail, et par contre, qui sont pas payés en net,
oui,
la même chose. Peut-être que pour les négociations salariales...
On
va pas avoir la même feuille de paie, alors qu'on fait le même travail et qu'on a le même salaire brut, a priori. Donc peut-être que dans les négociations salariales, on va dire, dis donc, celui-là, il a un gros taux, parce que ça veut dire que sa femme gagne beaucoup d'argent, peut-être un peu moins d'argent
pour lui. Ou parce qu'il a beaucoup d'enfants,
différentes situations personnelles, peut-être que ça va jouer, on sait pas, on va voir.
Emmanuel Le Chip, les entreprises... Non, alors, Christian, il calme le jeu, mais les entreprises, elles sont très colères. La CAPEB, oui. Les artisans du bâtiment demandent à être indemnisées, est-ce qu'elles ont le droit d'être déçues, en colère?
Évidemment, vous leur rajoutez quand même des contraintes. Alors sur le coup, moi je reprends juste les chiffres donnés par les parlementaires La République En Marche, qui ont publié un rapport sur le prélèvement à la source, donc on peut pas les soupçonner d'être très défavorables à la réforme, voyez. Donc ils disent que c'est quand même entre 310 et 420 millions d'euros l'année de la mise en place, et qu'après, c'est 6 à 8 euros la première année, et qu'en moyenne c'est 3 à 4 euros par salarié pour tout tout le monde en rythme de croisière. Donc oui, ça a quand même un coût. Alors après, dire les entreprises sont habituées, c'est un peu plus compliqué que ça. Le coût d'adaptation lors de l'année de transition, il existe.
Ah, c'est fait.
Le coût de gestion en régime de croisière, il existe aussi. Si vous croyez que tous les gens qui fabriquent des logiciels de paie, etc., vont faire gratuitement la mise à jour de leurs prestations, bah, je pense que on se trompe un petit peu. Ouais. Il y a la responsabilité fiscale et juridique, la responsabilité ressources humaines qui est réelle. Et puis n'oubliez pas quand même le bazar que ça risque de provoquer pour les TPE, parce que vous savez que pour répondre aux inquiétudes des entreprises, le gouvernement a décidé que les très petites entreprises de moins de 20 salariés pourraient passer par l'URSSAF hein, pour le prélèvement à la source. Sauf que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser une plateforme qui aujourd'hui fait travailler à peu près 50 000 entreprises, et que d'un seul coup, il faudrait que la plateforme de l'URSSAF accueille 1 million d'entreprises quasiment. Donc inutile de vous dire qu'elles ont le droit d'être inquiètes quand vous voyez tout le bazar que ça a été le RSI, quand vous voyez tout le bazar que ça a été les cartes grises quand il a fallu faire face à un afflux d'activités. Donc je pense que les entreprises, elles ont beaucoup de raisons d'être inquiètes, beaucoup de raisons de se méfier. Et puis encore une fois, moi je veux bien cet argument de dire oh, bah elles font déjà ça, donc on peut leur rajouter ça. Mais n'oubliez pas l'état de nos entreprises. Je veux dire, aujourd'hui on fait beaucoup pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pas compétitives, parce qu'on en a pas assez, parce qu'elles sont financièrement en mauvaise santé. Donc moi je veux bien qu'on leur rajoute tout ça, mais ce temps que vous allez consacrer à la gestion de l'impôt à la source, c'est du temps que vous ne consacrez pas à inventer des nouveaux produits, c'est du temps que vous ne consacrez pas à trouver des nouveaux clients. Donc oui, c'est quand même un handicap.
Emmanuel, alors
c'est
surmontable. Faut pas rajouter non plus. Christian. La CSG, ça se fait sans problème. Plus personne ne parle du fait qu'il y a une ligne CSG dans la fiche de paie des entreprises. Je rappelle le chiffre de l'OCDE par rapport aux autres pays. On est vraiment dans une configuration sur laquelle les entreprises prélèvent, jouent peu le rôle de percepteur de l'impôt. Donc on va leur rajouter un petit peu. Moi, j'ai parlé avec notre comptable Alternative Économique. Elle s'inquiète pas du tout du temps de travail monstrueux que va lui prendre le fait de rajouter une ligne sur le logiciel de comptabilité. Alors, pour nous qui est petite PME de moins de 50 personnes, a priori, ça nous pose aucun
mais dans
problème.
Des pays Emmanuel. Où, rappelons-le, le système fiscal est déjà individualisé et beaucoup plus simple que le système fiscal français.
Est-ce qu'il n'y aura pas un petit souci quand même avec les entreprises quand elles vont mettre la clé sous la porte, par exemple, quand elles vont avoir un gros problème, Christian
Ça, c'est comme d'habitude avec la TVA.
Elles auront eu
la TVA,
l'impôt
par exemple,
oui, dans leur compte, dans leur trésorerie, et on ne va pas arriver à recouvrer ça.
Ah, bah non, si vous avez une entreprise qui fait. Alors, si elle paye avec retard parce qu'elle s'est dit je vais me faire un peu de trésor en versant pas, c'est comme pour la TVA, il y aura des pénalités. Et puis, si malheureusement l'entreprise fait faillite avant d'avoir versé l'impôt, nous, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que salarié, on est dégagé de toute responsabilité puisqu'on est prélevé. Donc, nous, il n'y aura pas de souci si l'entreprise fait faillite en tant que salarié, en tant que contribuable. Par contre, c'est comme la TVA. Si vous avez une entreprise qui fait faillite, on ne touchera pas l'argent. Là, l'État ne touchera pas l'argent.
Emmanuel.
Il faut quand même rappeler que dans toute cette aventure du prélèvement à la source, vous savez, c'est un peu comme au casino. Quand vous y rentrez, la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que c'est le casino qui gagne. Mais là, le prélèvement à la source, c'est quand même l'État qui est le grand gagnant de cette réforme. Il ne faut pas croire que c'est une réforme qui est faite.
Ça veut dire que l'État. Les impôts, c'est des recettes.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'État, il gagne. Pourquoi ? Parce que il transfère une partie du coût de prélèvement de l'impôt sur les entreprises, donc il fait quand même des économies. Il gagne cette fameuse avance de trésorerie qu'il nous faisait, dont on a parlé. Et clairement, l'impôt à la source va un petit peu améliorer le taux de recouvrement de l'impôt, alors qu'il était déjà très bon.
Déjà 99,6%.
Oui, c'est quasiment, c'est 2 milliards par an quand même, hein. Donc, au total.
De
trésorerie en plus grâce à cette réforme de l'impôt à la source. Donc, du coup, c'est que l'État est quand même le grand gagnant de cette réforme.
Bercy parle de 700 millions d'euros, Christian Juste. En effet, on récupère pour l'instant l'impôt sur le revenu à 98,5%. Bercy disent qu'ils peuvent arriver à gagner 700 millions d'euros de plus.
Là, dans un an, on n'en parlera plus.
Alors, j'ai quand même une question sur la trésorerie tout à l'heure pour les particuliers et qui est gagnant. Est-ce que vous avez été sensible à ce qu'Edouard Philippe nous a dit sur les crédits d'impôt pour les EHPAD, pour les dons aux associations? Là, ils ont mis une petite rustine, justement, avec cette idée de n'affolons pas les gens qui s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat.
Non mais,
Emmanuel.
Alors, effectivement, pour les gens qui ont des crédits d'impôt, même si on leur dit tel système, je pense qu'il va y avoir peut-être un effet un petit peu épargne de précaution sur l'année, mais sinon il y aura pas d'effet majeur sur d'inquiétude, parce que je sens votre question venir, est-ce que ça va avoir un impact sur la croissance? La réponse est non. Vous avez vu la réponse cette semaine dans les sondages, 70% des Français sont plutôt pour, donc les Français ont bien compris, parce qu'ils sont pas débiles comme on a essayé de nous le faire croire, que il y a une ligne d'impôt, notre salaire net, mais on a moins de pouvoir d'achat. Non, ils ont bien compris que c'était de l'impôt qu'on percevait différemment. Donc ça va peut-être changer les habitudes de consommation.
En même temps, à mon avis, fin janvier, début février prochain, il va y avoir un petit peu d'afflux dans les bureaux de la Direction Générale des Finances Publiques.
Allez, j'ai encore nos deux dernières questions. Est-ce que, elles se tiennent quand même, est-ce que ce nouveau mode de paiement de l'impôt va bouleverser d'autres systèmes? Je pense par exemple aux prestations sociales. Christian.
Oui, c'est possible. Évidemment, une fois que vous prélevez à la source, vous pouvez par exemple les aides au logement, les rendre complètement contemporaines des revenus. À partir du moment où vos revenus baissent, vous avez le droit à des aides au logement. Il y a plein de gens qui ne savent même pas. Donc, il y a un taux de non-recours, par exemple, aux aides au logement qu'on va pouvoir gommer tout de suite. Le fisc s'aperçoit que vous êtes passé sous le seuil, vous allez pouvoir toucher vos aides au logement. À l'inverse, lorsque vous continuez à percevoir vos aides au logement alors que vos revenus ne vous permettaient plus, le fisc va vous le couper plus vite. Donc, ça marche des deux côtés. Ouais.
Emmanuel Le Chypre, dernière question. Est-ce que cette réforme du mode de paiement de l'impôt, qui n'est pas une réforme fiscale...
Du moment que vous ne me demandez pas de dire contemporanéité, j'accepte n'importe quelle question.
Est-ce que c'est le prélude à une vraie réforme fiscale? On a un peu entendu ça dans le zapping sonore au début.
Techniquement, oui. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'ambition du gouvernement précédent et de François Hollande, quand ils ont lancé cette réforme du prélèvement à la source, c'était une vraie réforme fiscale qui consistait à fusionner l'impôt sur le revenu, donc familiarisé, progressif, etc., avec un impôt individualisé et qui lui était plutôt proportionnel, qui était la CSG, de manière à avoir un système fiscal plus harmonieux, plus progressif. Et effectivement, sur ce chemin-là, l'impôt à la source était une étape nécessaire. Bon, il n'est plus resté que l'impôt à la source et la perte d'ambition. Donc c'est vrai que techniquement, cet impôt à la source, ça ouvre des possibilités importantes de réformes futures. Oui, mais sauf que politiquement, on ne la voit pas venir, cette réforme future, Christian.
D'accord, mais on a quand même un système fiscal d'impôt sur le revenu qui date des années 40. Oui. Conjugalisé, familialisé, maintenant les gens sont un peu plus autonomes, ils divorcent plus souvent, il y a des familles recomposées, etc. C'est un peu, quand même, ça se développe beaucoup. On va pouvoir, grâce à cette mère des réformes, comme dit l'ancien député Pierre-Alain Muet, c'est la mère des réformes pour lui. Pourquoi? Parce que demain, on va pouvoir individualiser, demain, on va pouvoir défamilialiser et trouver d'autres moyens, si on veut, pour aider les familles qui ont des enfants. Demain même, si vous voulez mettre en place un revenu universel, il suffira de supprimer le montant du revenu universel, du montant de ce qui est prélevé, et c'est mis en œuvre en claquement de doigts. Donc, c'était la mère des réformes. Oui, c'était de la tuyauterie, oui, c'était de la technique, mais demain, ça ouvre la porte à beaucoup de réformes politiques, et des réformes politiques, cette fois, de grande ampleur sur notre fiscalité.
Mais pour l'instant, en effet, rien n'est dit. Dans l'agenda, il n'y a rien d'autre que le mode de paiement.
Parce il y aura d'autres présidents, d'autres gouvernements.
C'est ce que j'allais dire, on a le président Macron, il y en aura d'autres.
La vie sera longue. Notre vie fiscale sera longue.
Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux, merci à vous les débatteurs du samedi. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Il est 9h35 sur France Inter. Je vous propose maintenant de sortir du studio pour aller faire le tour de nos usines. On a eu beaucoup de communication autour du Made in France. Et dans la réalité, est-ce que le Made in France, ça marche?
On est où ici, là, Franck?
Ici, concentré sur quelques centaines de mètres carrés, l'ensemble des opérations qui nous permet de réaliser une chaussure de A à Z.
Alors, on va voir peut-être cette dame-là qui est en train d'assembler justement les éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un métier à tisser un peu, hein?
En fait, c'est une machine à coudre beaucoup plus sophistiquée.
Voilà, hop, on coud.
Regardez bien le savoir-faire où on a plusieurs pédales, deux pédales dans les pieds.
C'est très précis, quoi.
C'est très précis. Et c'est un poste qui nécessite une vraie maîtrise, un vrai savoir-faire. Et il faut à peu près 6 mois pour former une personne à cet endroit.
On est en France, on est bien en France, à côté d'Angers.
Dans le Maine-et-Loire, à une vingtaine de kilomètres des châteaux de la Loire. Nous avions commencé à faire produire des chaussures à l'international.
Où ça? Dans quel pays?
Chine, Inde. À partir des années 2000, on a commencé à mettre de plus en plus de production sur ces pays-là.
Parce que c'était moins cher,
coût de production. Parce que c'était moins cher, il n'y avait pas le choix si on voulait continuer à être dans la course par rapport à l'ensemble de nos concurrents.
Quel pourcentage était à l'étranger, quel pourcentage en France à ce moment-là?
Je vais vous répondre précisément pour la société Parade. En 2011, on faisait 20% de notre production en France, 40% en Inde et 40% en Chine. Aujourd'hui, on est à plus de 40% en France et plus que 30% en Inde, 30% en Chine. Et
on pense, vous êtes en train d'inverser la tendance.
Absolument, et l'année prochaine, on va atteindre 50-55% de fabrication française.
Évidemment, c'est la belle histoire, hein, l'entreprise de chaussures qui rapatrie en France des lignes de production. Nous sommes donc à côté d'Angers, dans l'usine Parade. C'est une filiale d'Eram. Elle fabrique des chaussures connectées et des chaussures de sécurité. On en connaît d'autres, hein, des belles histoires de relocalisation. Je pense aux boîtes de thé Kousmi. On connaît aussi des usines qui s'agrandissent, des usines qui sortent de terre. Est-ce que ce sont des exceptions? En a-t-on fini, même, peut-on y croire, avec la désindustrialisation? Bref, le Made in France aujourd'hui, jusqu'où y croire? Une partie de la réponse se trouve donc dans l'usine de chaussures. Franck Chérel, le directeur, est avec notre reporter Anaël Verzo.
C'est en 2012 qu'on a vraiment pris la décision de commencer à rapatrier en France. Les raisons, elles sont assez évidentes. La première chose, c'est d'abord la préservation du savoir-faire. Deuxième élément, quand on fait fabriquer des produits à l'étranger, entre le moment où on passe la commande et le moment où les chaussures arrivent chez nous, il nous faut pratiquement 6 mois.
6 mois.
6 mois, c'est considérable. Donc, ce que l'on s'est dit, nous, c'est on va fabriquer ça en France, on sera plus réactif. Donc, ça nous permet de diminuer le stock, donc ça a un impact important financièrement.
Et le produit, une fois que vous le mettez en vente, est-ce que vous valorisez le Made in France?
Oui. Définitivement oui. Alors deux choses. Il y a la marque TBS qui met ça vraiment en avant pour tous ses clients dans le domaine du sport. Les gens sont très sensibles de plus en plus au Made in France. Ça, c'est indéniable. Pour les chaussures parades, chaussures de sécurité, là, on s'adresse à des industriels qui sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à des réalisations qui sont faites en France parce que eux aussi ils ont besoin de maintenir leurs emplois et ils sont sensibles à des sociétés qui font fabriquer en France parce que ça fait travailler tout un écosystème d'industriels, de sous-traitants.
Franck Chérel, je vous suis. Là, on se dirige vers une autre partie de l'usine.
Là, on arrive dans l'usine 4.0.
4.0.
Au moins.
Alors là, il y a les chaussures qui défilent sur les rails. C'est assez étonnant parce que là, en fait, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des machines, comme des espèces de grands bras articulés qui sont à des postes de travail et qui mettent chacune un élément derrière l'autre pour constituer la chaussure du futur.
C'est cela.
La chaussure connectée.
Notamment, on fait des chaussures déjà standards, mais on fera aussi des chaussures connectées de la même façon demain sur cette chaîne.
La machine prend la chaussure. C'est les bras métalliques. Je croirais un peu dans un film de science-fiction. Bonjour.
Ici, nous avons 3 opérateurs qui vont toucher à un moment donné la chaussure. Il faut vous dire que en Inde ou en Chine, vous avez entre 17 et 20 opérateurs qui touchent cette même chaussure. C'est là où se fait le delta. C'est là
où vous faites des économies sur les salaires, du coup.
C'est là où nous pouvons faire des économies sur les salaires et redevenir compétitifs par rapport à eux. Par contre, ça nécessite d'avoir derrière une armée de techniciens et d'ingénieurs qui pilotent l'intégralité des robots et des systèmes.
D'accord, vous avez plus ou presque plus d'ouvriers. En revanche, vous avez les cadres, les techniciens supérieurs.
Alors, si nous n'avions pas fait ce travail d'automatisation depuis 5 ans, nous aurions disparu. C'est une certitude.
Fabriqué en France, ça a l'air davantage possible aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais a-t-on des chiffres? David Kousker du cabinet Trendéo produit des données précises sur le Made in France.
Bonjour,
Anaël.
Enchanté.
En 2018, il y a eu combien de relocalisations, David Kousker?
Alors en 2018, on a enregistré 11 relocalisations pour 350 emplois créés, donc c'est 0,4% des créations d'emplois enregistrées.
C'est beaucoup ça ou pas?
C'est symbolique. En fait, les relocalisations sont stables chez nous depuis 2009. Les relocalisations, c'est entre 200 et 1000 emplois par an. Ce qui, par contre, évolue de façon spectaculaire, ce sont les délocalisations qui, elles, baissent très fortement. Ça s'inscrit dans un mouvement où les fermetures d'usines sont beaucoup plus faibles qu'en 2009, avec au final une recréation nette d'emplois dans les usines françaises. Donc l'industrie française recrée des emplois depuis maintenant 2 ans. Et donc c'est l'effet d'une compétitivité plus générale dans laquelle les relocalisations sont qu'un élément du paysage. Ce qui est important, c'est que les usines qui existent ferment moins. Et là, c'est vraiment le mouvement massif qu'on observe. Et puis, l'automobile, c'est près de 50% de ce qu'on observe, nous, dans l'industrie. Les grands sites automobiles, sans qu'il y ait ouverture de nouveaux sites, recommencent à créer des emplois et développent leurs effectifs.
L'industrie automobile, ça marche. Mais il y a des secteurs où on a complètement abandonné le Made in France. Richard Crétier est délégué général du syndicat des entreprises de sous-traitance électronique.
Nous, ce que l'on sait, c'est que la quasi-totalité des productions destinées au grand public ont disparu de France. Les sous-traitants ne sont pas à l'origine et ne sont pas les acteurs de la délocalisation. En 2018, les grands équipementiers de l'aéronautique, qui bossent pour Airbus, pour Dassault et autres, poussent encore leurs sous-traitants à externaliser leur production dans les zones low cost. Il tient aujourd'hui qu'aux auteurs de la délocalisation de relocaliser. Il n'y a qu'eux qui peuvent le décider.
Donc il faut convaincre Airbus, Dassault, Thales de relocaliser.
Ben, c'est ça, bien sûr. Il faut les convaincre. Qu'en France, on utilise les mêmes outils de production qu'utilisent les industriels asiatiques, qu'on a les mêmes compétences, qu'on applique les mêmes certifications. C'est tout pareil, suffit de penser à nous.
Oui, sauf qu'il y a une différence de salaire énorme entre la France et l'Asie, par exemple, non ?
Non. Le surcoût est inférieur à 10%. Donc c'est pas énorme.
Selon la Direction Générale des Entreprises, 3/4 des Français se disent prêts à payer plus cher pour acheter français. Et les Chinois ? Sébastien Badeau est le directeur général d'Alibaba France, le site de commerce en ligne chinois.
Aujourd'hui, on en a à peu près 300 marques françaises qui se développent. Après, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Je pense que ce qui manque, c'est un écosystème qui commence à se développer, un peu de confiance aussi. Et c'est ça qu'on essaye de créer et d'essayer de montrer qu'il y a la possibilité d'aller sur le marché chinois, de trouver des bons partenaires pour le faire et de trouver des débouchés. Parce que clairement, c'est une opportunité massive pour l'économie française. On parle sur les plateformes d'Alibaba de 567 millions de clients potentiels.
567 millions.
Ouais, 567 millions. Et il n'y a que la moitié de la population qui est en ligne. Donc il y a un potentiel encore de croissance qui est extrêmement fort.
Quels sont les produits français, made in France, qui marche en Chine?
La catégorie qui est la plus mûre, c'est la cosmétique. Là, on a lancé des grandes marques comme Yves Saint Laurent il n'y a pas très longtemps, qui marchent extrêmement bien. D'autres marques plus petites comme Filorga et la mode aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des secteurs sur lesquels la France est très forte. Tout ce qui est vin.
Ah, sur le vin?
Ouais, sur le vin, absolument. C'est un secteur qui va exploser là dans les 5 années à venir. Et puis aussi tout ce qui est lié à la puériculture, parce que forcément avec la politique de l'enfant unique, même si elle a évolué, il y a énormément du revenu moyen des Chinois qui est dépensé sur l'enfant. Une marque comme Baby Zen, vous savez, qui fait une poussette spéciale qui s'appelle la Yo-Yo et qui marche très très bien en Chine. Et en fait, les Chinois, quelque part, acheter un produit qui provient de France, c'est un gage de qualité. Pourquoi est-ce que les Chinois, ils vont chercher ces produits-là ? C'est spécifiquement parce que justement les autres ne les ont pas. Et nous aujourd'hui, ce qu'on dit aux marques, c'est de capitaliser là-dessus, de mettre en avant le fait que c'est Made in France, de raconter une histoire. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur chinois, avant d'acheter un produit, il achète une histoire.
Le Made in France a-t-il de l'avenir ? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on suit le fil de l'histoire du Made in France avec mon invité, un entrepreneur de fraîche date, le fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, on va en parler, l'ancien ministre de l'économie et du redressement productif. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Arnaud Montebourg, vous avez écouté le reportage avec attention, vous êtes d'accord, fabriqué en France, aujourd'hui c'est devenu davantage possible ?
Oui, d'abord parce que nous avons des savoir-faire qui ont disparu dans les grandes années de l'arasement de la mondialisation à domination asiatique, qui sont en train de se reconstruire. D'abord, vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs qui utilisent des nouveaux modèles économiques comme le numérique, donc qui se passent par exemple des prélèvements sur marge que la distribution imposait aux producteurs. En fait, le commerçant gagnait bien sa vie. Le producteur ne le gagnait plus parce que les coûts de marketing, les boutiques, les modèles numériques d'achat par le e-commerce ont permis à des producteurs de se relancer dans tous ces secteurs qui n'étaient absolument pas compétitifs. Donc dans le textile, par exemple, vous avez 2000 emplois qui ont été créés l'année dernière, vous avez un renouveau. Je prends l'exemple du jean français souvent, mais je pourrais vous dire que le coton français est en train de reconstituer l'intégralité de sa chaîne verticale. Il y a même des agriculteurs qui se sont mis à replanter du coton. Donc nous avons une renaissance dans tous les secteurs. Je pourrais vous parler du vélo. L'histoire du vélo est extraordinaire. Elle avait disparu du territoire français, la fabrication de vélos. Et puis vous avez des assembleurs qui sont arrivés. Et puis des dérailleurs qui venaient de Chine, qui sont venus s'implanter en France. Puis peu à peu, on reprend le contrôle de nos fabrications. Je peux vous parler,
attendez,
par exemple, hier,
oui.
Les matelas Steiner ont annoncé le retour, la relocalisation depuis le Portugal vers la France. Pourquoi ? parce que les savoir-faire, et puis surtout l'exigence du consommateur sur les délais. Donc le délai, c'est le circuit court. Et puis après, vous avez aussi, sur tout l'agroalimentaire, la consommation de nourriture, vous avez le désir de manger local. C'est le locavorisme, hein, une sorte de grand mouvement.
Alors vous nous dites que ça
de
marche.
Société.
Oui, ça se développe. C'est aussi ce qu'on entend. On a entendu des gens enthousiastes, hein, dans le reportage. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, les Français, les ménages et les entreprises achètent de plus en plus du made in ailleurs, pas du made in France.
Ben, je note qu'il y a un mouvement de société. Très puissant sur le made in France. Vous avez, je le ressens moi-même.
Mais ils ne sont pas dans les chiffres.
Ben, ils sont pas dans les chiffres parce que l'industrie est trop petite et que nous avons eu des pertes considérables, donc il n'y a pas d'offre en face. Et d'ailleurs, je pense que la responsabilité de la société française tout entière, du consommateur, des pouvoirs publics, des distributeurs, c'est de faire un grand plan made in France pour retrouver une offre qui soit à la hauteur de cette demande considérable. Le consommateur, il vote avec sa carte bleue et il ne veut pas voter chinois.
Donc,
il veut voter français.
Mais c'est une question.
Tous les jours, quand il achète.
Voilà. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'industrie fasse une offre à prix acceptable, un peu plus cher, parce qu'on a entendu que les Français sont prêts à payer un peu plus cher. Mais l'industrie, pour l'instant, elle n'en est pas encore capable.
Non, c'est pas que l'industrie n'est pas capable, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui de système financier qui est adapté à la prise de risque liée à l'industrie. Ou le système bancaire, aujourd'hui, refuse d'investir grossièrement dans l'industrie. Hein, il faut quand même le dire. Encore moins les PME. Donc, vous avez un vrai sujet. Quand Renault, par exemple.
La Banque publique d'investissement, elle ne fait pas ce travail.
Mais elle le fait, mais c'est trop petit. La Banque publique d'investissement, c'est 5% du marché des crédits. Alors d'accord, ils ont 15 à 20% de croissance par an, mais enfin, c'est très petit par rapport à ce qu'est la bancarisation de l'économie et la manière dont fonctionne le système financier. Donc, deuxièmement, vous avez aujourd'hui des tas de petites entreprises qui se lancent, mais qui ne sont pas soutenus. Donc, ils utilisent d'abord le crowdfunding, le financement participatif des plateformes. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Pour le développement, la croissance, il n'y a plus personne. Et c'est qu'on arrive dans la vallée de la mort, où là, vous avez tous les hussards du Made in France qui reposent en paix parce que les banques ont regardé ailleurs.
Donc, problème de financement, dites-vous, est-ce qu'on n'a pas quand même un problème de compétitivité?
Je ne crois pas. Je crois que les choses
ont été... L'export ne marche pas.
Je ne crois pas. Que l'export ne marche pas, c'est une chose. Mais que le marché intérieur ne fonctionne pas, c'est déjà la démonstration. Il y a une demande, mais il n'y a pas l'offre. Et d'ailleurs, l'exportation ne marche pas. Je crois que c'est la question de l'investissement. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment d'investissements dirigés vers une offre productive. C'est la préoccupation que devraient avoir les pouvoirs publics. Par exemple, lorsqu'il y avait l'ISF, l'ISF permettait de drainer des déductions, par l'intermédiaire des déductions fiscales, beaucoup d'argent vers les PME. Aujourd'hui, ça s'est effondré. Donc les conséquences de l'ISF, en dehors d'être le cadeau qu'on sait à des grandes fortunes de notre pays, c'est que tout l'argent de déduction fiscale, il y en a plus d'un milliard qui était drainé vers les PME sans passer par les banques, a disparu. Donc vous avez aujourd'hui plein de PME qui trouvent plus d'argent.
Arnaud Montebourg, vous me parlez encore de financement, vous ne me parlez pas de coût du travail, donc est-ce que pour vous c'est encore un problème? Et vous, alors qu'on a fait le CICE, etc., qu'on a beaucoup aidé les entreprises françaises à baisser leur coût du travail, et vous ne me parlez pas de monter en gamme des produits. On dit souvent qu'on a quand même un problème avec nos produits.
J'écarte le coût du travail pour une raison simple, c'est que tous les salaires, d'abord les salaires tels qu'ils existent dans le monde, en Chine par exemple, augmentent 25% l'an. Je regarde par exemple ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, vous avez des hausses de salaires partout. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que dans l'accord que M. Trump vient de signer avec le Mexique, il a mis comme condition l'importation de voitures sur le sol américain contre des niveaux de salaire qui sont ceux de la Californie, c'est-à-dire 16 dollars de l'heure. Enfin, quelque chose d'incroyable. On n'en a pas assez parlé parce que dans la mondialisation, vous avez aujourd'hui de l'incorporation des préoccupations pas seulement environnementales, mais aussi sociales. Donc la question des salaires, pour moi, n'est plus à être traitée. La question de la montée en gamme, c'est une question d'investissement. Si vous n'avez pas d'argent pour investir dans le marketing, dans le design, c'est la compétitivité hors coût, comme on dit chez les spécialistes, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne pouvez pas progresser. Les Italiens, par exemple, c'est une économie en difficulté. Ils ont 250 produits leaders mondiaux imbattable. Ils ont fait des années d'investissement sur le marketing, sur l'imaginaire, sur et même sur la conception de leurs produits. Ce sont des investissements considérables. Ils l'ont fait parce qu'ils ont un système économique, industriel et financier qui est local et qui s'auto-soutient. Nous n'avons pas ça en France, malheureusement.
Arnaud Montebourg, on va passer à votre nouvelle vie. Vous parlez beaucoup de financement et les problèmes de financement. Ça a été compliqué de monter votre entreprise?
C'était surtout passionnant. Un an de travail avec une équipe. J'ai monté deux startups agricoles. Alors, dans un secteur aussi effondré, je tiens à le dire, le miel, il y a 20 ans, on consommait 30 000 tonnes. on en produisait 30 000 tonnes. Aujourd'hui, on en consomme 40 à 45 000 tonnes par an. On en produit, selon la police et les organisateurs, entre 9 et 16 000 tonnes. Donc, un secteur en difficulté, je me suis dit, il faut investir d'urgence. C'est là qu'il faut se porter, examiner le secteur, travailler avec des hommes de la filière et du métier. C'est ce que j'ai fait.
Donc ça s'appelle Bleu Blanc Ruche, ouais.
Nous avons lancé une marque de combat en faveur du repeuplement des abeilles. C'est-à-dire qu'en fait, le repeuplement des abeilles, il passe aussi par la remontée du nombre d'apiculteurs professionnels en France. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a monté une école, une grande école d'apiculture, pour former des générations d'apiculteurs de top niveau, puisque le métier d'apiculteur, c'est un métier de haute scientificité maintenant, puisqu'il y a des fléaux sanitaires qu'il faut affronter. Et donc, c'est presque un métier de vétérinaire, ce qui n'était pas le cas avant, c'était un métier de cueillette. Donc, nous avons fait cet investissement. Deuxièmement, nous avons décidé d'allier, d'unir le consommateur et l'apiculteur producteur. C'est-à-dire qu'on dit au consommateur, pour quelques dizaines de centimes sur votre pot de miel bleu blanc ruche, eh bien, c'est des milliers d'euros à la tonne chez l'apiculteur dans lequel il s'engage vis-à-vis de nous d'investir dans l'augmentation de son nombre de ruches, l'augmentation de ses colonies, de son cheptel. Donc c'est une œuvre de repeuplement du niveau de nos abeilles qui, comme vous le savez, rendent un service considérable à l'humanité car elles assurent la souveraineté alimentaire de notre pays.
Et Saplément de Bourg, c'était un handicap ou un inconvénient?
C'était un formidable soutien.
Formidable soutien pour trouver des investisseurs, des actionnaires.
Pour convaincre, j'en ai été heureux et c'est une œuvre passionnante. C'est une entreprise à bénéfice public, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle gagne de l'argent, elle veut en gagner pour investir, pour réaliser sa mission sociale, son objet social, mais aussi elle rend un service à la société.
C'est plus efficace d'être entrepreneur, de monter une entreprise que d'être à Bercy?
Je dirais que c'est complémentaire. Il y a des choses que le politique ne sait pas faire. Et il y a des choses que l'initiative entrepreneuriale peut faire. L'entreprise peut régler des problèmes et faire changer des morceaux du monde. Donc je trouve que c'est une expérience concrète. C'est modeste, disons-le, c'est très modeste.
Les abeilles.
Mais c'est très concret. Et on est très fiers de voir s'accomplir notre travail d'équipe. Quoi. C'est une équipe.
Je vous amène donc sur le terrain de l'écologie. Les abeilles, c'est de l'écologie. L'écologie et l'économie, c'est compatible?
Je crois qu'elles ont besoin de s'unir et de se marier. Si l'écologie dit notre destin, c'est de nous appauvrir, c'est-à-dire en prônant la décroissance, le problème de la croissance économique, j'ai entendu ce débat qui commence à monter, il est récurrent d'ailleurs, c'est que quand la population est en croissance démographique, mais que l'économie n'est pas en croissance, ça veut dire que le gâteau à se partager par le nombre de bouches rétrécit, et en conséquence de quoi on s'appauvrit. En revanche, si la croissance suit tout en mutant, en étant différente, d'une autre nature, c'est-à-dire que finalement, quand je vois, il y a eu un rapport qui a été publié au plan mondial avec des chefs d'État, des dirigeants de grandes entreprises transnationales qui ont dit si aujourd'hui on investit massivement dans l'écologie, c'est-à-dire finalement on traite le compte à rebours écologique qui est en cours, on écologise toutes les décisions.
C'est compatible. Là, le modèle économique.
Mais plus que oui. Ça. C'est créateur d'emplois, on va créer 67 millions d'emplois et on va créer 26 000 milliards de PIB en plus dans le monde. Donc, c'est donc que finalement l'écologie est un investissement productif. Quand vous allez décider de mettre de l'isolation sur tous les bâtiments, changer le modèle de transport, vous allez créer des produits, du travail.
Et Nicolas Hulot, il a eu raison de démissionner.
Je dirais que cet homme est sincère. Et courageux. Il a dit des choses qu'il fallait avoir le courage de dire. Et s'il n'y arrivait pas, seul lui peut en juger. Mais une chose est sûre, c'est que la responsabilité, elle nous revient. Tous. Les Français, les citoyens du monde, finalement. Et chacun à notre place. Et j'ai envie de dire que les décisions que nous avons à prendre vont être considérables. Donc moi, je ne dirais pas que ce soit incompatible avec le capitalisme. J'ai entendu ça. Je dirais que c'est incompatible avec le laisser-faire, c'est-à-dire le libéralisme. Premièrement, on a besoin de décisions publiques très, très volontaristes, y compris réglementaires, c'est-à-dire qui organisent des interdictions et des soutiens.
Arnaud Montebourg, je vais vous poser une dernière question. Tout à l'heure, vous parliez de Trump, j'ai envie de vous y faire revenir. Il dit la même chose que vous, Trump, il dit que son pays a été le naïf de la mondialisation. Vous disiez que l'Europe était la naïve de la mondialisation. Est-ce que ces effets de manche, plus que ça, son escalade, finalement, c'est pas lui qui a raison de taper du poing sur la table?
D'abord, j'ai noté que le soutien du peuple américain à Trump repose essentiellement d'abord dans les États qui ont été brutalisés, pour ne pas dire très abîmés par la mondialisation. Et il y a une révolte des classes moyennes contre leurs dirigeants qui ont mis en concurrence les salaires des vieilles classes ouvrières syndicalisées avec les travailleurs chinois quasi esclavagisés. Hein, si je résume la situation, c'est ça qui s'est passé.
Ok, bon. Il nous reste une poignée de secondes. Eh bien, qu'en dites-vous? Il a raison ou pas, Trump, de nous mettre la pagaille partout?
Obama avait commencé à le faire. Je vais dire, le protectionnisme est une constante des pays industriels qui veulent exercer la puissance. Et comme l'Europe est un nain impuissant, elle n'exerce aucune puissance, elle est en train de se faire taillader. Donc c'est normal que des pays comme la France, où nous aussi nous avons des classes moyennes qui ont été très abîmées par la mondialisation, aient besoin de faire rétrécir le monde, de le démondialiser un peu.
Arnaud voilà. Montebourg, ancien ministre de l'économie, désormais à la tête de Bleu Blanc Ruche.
Alors c'est lancé lundi sur la plateforme ulule.fr.
C'est fait.
Tout le monde peut avoir son pot de miel.
C'est dit. Merci d'avoir été sur France Inter. Sandrine, on passe aux écarts de salaire. Obliger les entreprises à publier les écarts de salaire, est-ce un outil suffisamment dissuasif? C'est la question que vous pose Gérard, syndicaliste dans un groupe pharmaceutique.
Oui, le député de la majorité Mathieu Orphelin a déposé un amendement à la loi Pacte. Les grosses entreprises pourraient être obligées de publier tous les ans une batterie d'indicateurs. Combien gagnent les 25% de salariés les moins bien payés? Quel est le salaire moyen, médian? Quel est le ratio entre la rémunération la plus haute et la plus basse? Des écarts qu'il faudra justifier année après année. Gérard, vous le savez, selon la taille de l'entreprise, les directions doivent déjà communiquer aux élus du personnel les montants des 5 ou 10 personnes les mieux payées. Si cette nouvelle disposition est votée, ce sera plus détaillé. Publié dans le rapport annuel, on peut supposer que plus il y aura de transparence, plus il y aura de débats en interne. Le problème, c'est qu'on connaît déjà ce type d'infos. Il est plus facile de savoir combien gagne le nouveau patron d'Air France KLM que de connaître le salaire de son voisin de bureau. Un patron du CAC empoche 70 fois plus qu'un salarié moyen. Aux États-Unis, imbattable, c'est 265 fois plus et seulement 20 fois plus en Norvège.
Ces indicateurs qui ne seront pas assortis de sanctions, Sandrine, peuvent-ils quand même infléchir les politiques de rémunération?
D'abord, il va falloir lire ces indicateurs. Ils peuvent être trompeurs. Une entreprise qui choisit de délocaliser, d'externaliser les métiers les plus mal payés aura un écart plus favorable qu'une industrie qui emploie beaucoup de bas salaires. Ensuite, peut-on compter sur l'autorégulation, sur la raison? Pas trop. Depuis cette année, les actionnaires peuvent se prononcer sur la rémunération passée d'un dirigeant. Eh bien, même eux approuvent ces salaires mirobolants. Les actionnaires de Carrefour, ont validé les 13 millions de l'ancien PDG qui a pourtant cumulé les échecs. Il y a deux façons, Gérard, de réduire les écarts, soit par le haut du panier, ce qui voudrait dire plafonner les salaires comme dans les entreprises publiques, ou alourdir la fiscalité des très hauts revenus. On n'en prend pas le chemin. L'autre solution est de réévaluer les salaires par le bas. Les boîtes où les écarts sont les plus faibles sont souvent celles qui paient bien leurs salariés, même les moins qualifiés.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.